l'évangile de Luc. On était dans l'évangile de Luc, on a fait le chapitre 16, 17, le début. Bon, on va revenir en arrière, on va faire le 15, parce que quand même, c'est dommage de quitter ce beau passage de Luc sans lire les paraboles de Jésus qui concernent une réponse que Jésus a faite à certaines personnes. On va lire ça ensemble. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Ça ne va pas être pratique. Hein. Sans arrêt, il se coupe. Enfin. Alors, vous avez peut-être remarqué des fois, on lit des choses dans les évangiles et qui nous semblent incompréhensibles. Et pour les scribes qui étaient là, quand ils voyaient Jésus, la façon dont il agissait, ils ne comprenaient pas. Un homme qui est un enseignant qui enseigne les peuples, qui a de l'autorité, qui guérit les malades, qui fait des miracles, que jamais personne n'avait vu avant lui. Mais comment, ces pharisiens étaient là, mais comment il peut aller avec des pécheurs? C'était pour eux quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, ils murmuraient entre eux. Et en lisant la Bible, vous aussi, peut-être, vous avez ce genre de questions qui se posent à vous des fois. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a fait ceci? Pourquoi il a dit, il a fait cela? Et là, nous, la crème des religieux avait ce problème. Jésus est-il complaisant avec le péché? Et que fait-il au milieu de gens qui sont infréquentables? Alors, Jésus, aujourd'hui encore, attire les pécheurs, et pour nous, c'est peut-être quelquefois des choses qui sont incompréhensibles. Mais Jésus donne une réponse à travers trois paraboles que nous allons voir maintenant. Alors la première parabole, donc, commence au verset 3. Donc Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller rechercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, de retour à Dieu, de changement radical. C'est comme ça qu'on peut comprendre le mot « repentance ». Alors, dans cette scène, il y a trois scènes. Si on devait mettre en œuvre cette parabole, il y aurait trois scènes. Premièrement, la brebis ou le mouton, hein, c'est un animal. Hein, c'est un animal domestiqué dont il s'agit ici. Donc, d'ailleurs, le mot « brebis », ce n'est pas forcément une brebis femelle, etc. Bon, ça, c'est un mouton, ça peut être une chèvre, ça peut être un petit animal, en tout cas. Il est perdu, et c'est le drame. C'est le drame. Lequel d'entre vous, lorsqu'il perd un, il laisse tout le troupeau, et il va le chercher, et même si c'est le jour de sabbat. Travailler quand c'est le jour de repos, ça n'enchante personne. Il y a des personnes des fois qui ont des astreintes le dimanche, hop, ils reçoivent un coup de fil, ah ben voilà, il faut que tu viennes, il y a des fois les gendarmes, les policiers, les pompiers, il y a tel problème, tel accident sur la route, allez, il faut tout laisser et il faut y aller. On n'aime pas faire ça, on n'aime pas travailler le dimanche. C'est quelque chose, mais une brebis qui est perdue à ce moment-là, il faut aller la chercher tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle est en danger. Il y a une idée de un bétail qui est en danger. Et quand elle est retrouvée, c'est la joie. La deuxième scène serait, la deuxième image qu'on mettrait, ce serait, voilà, la joie de retrouver la brebis. On dessinerait le berger qui est tellement heureux de retrouver sa brebis. Et l'autre dessin qu'on ferait peut-être, c'est la joie quand il arrive chez lui. Il faut que tout le monde se réjouisse avec lui. On est un petit peu loin de tout ça, mais pour les personnes qui connaissaient, fréquentaient Jésus de son temps, c'était des choses qui parlaient beaucoup. Et quand j'étais jeune, à la maison, il y avait des vaches, pas beaucoup, mais on en avait deux qui étaient à la maison à un certain moment. Et c'est vrai que, et d'autres qui étaient en pâture, mais chaque fois qu'il y avait, on appelait ça, les vaches qui sautaient, c'est-à-dire qu'elles franchissaient la barrière et elles étaient parties, quelle que soit la raison. D'ailleurs, là, ici, on n'a aucune raison qui nous est donnée de pourquoi la brebis est partie. C'est pas le souci. Elle est partie, elle s'est perdue. C'est la réalité. Et les raisons sont bien secondaires. La question, c'est aller la chercher. Et on arrêtait tout ce qu'on faisait, et on allait chercher les vaches. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient en danger. On savait pas où elles étaient. Et une fois, d'ailleurs, elles étaient parties sur la voie ferrée à se promener, ce qui était extrêmement dangereux. Vous le comprenez. C'était la nuit en plus. Alors, quand on s'approche, généralement, ce qui se passe, c'est qu'elles ont peur et partent encore plus loin. Et c'est très difficile de ramener du bétail qui est perdu, parce qu'il est perdu. Il a perdu ses repères. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus. Voilà. Et il est très facilement effrayé. Et donc, mon père, je me rappelle, cette fois-là, avait appelé il y avait deux vaches. Il y en avait une qui était un peu la chef et l'autre qui suivait. Et il avait appelé la chef par son nom, elle s'appelait Kaline, il avait appelé Kaline. Et la vache avait reconnu la voix de mon père, et elle était fait demi-tour, elle l'avait suivi, jusqu'à la maison, jusqu'à ce qu'il revienne. Tout ça pour donner une illustration. La raison du pourquoi elle est partie, comment ça s'est passé, etc., c'est secondaire. Il faut aller la chercher, le mouton est en danger. Et tout est affecté. On laisse le brebis dans le désert, on les amène dans le désert, elles n'auront rien à manger, elles vont rester là pour le temps d'aller chercher celle qui est perdue, la 1% qui est perdue. On peut noter qu'il y a 100 brebis, elles ont toutes la même valeur pour le berger. Il n'y en a pas une qui, c'est pas que celle soit perdue, soit tellement spéciale, non, c'est une brebis comme les autres, mais elle s'est perdue. Il faut aller la chercher, c'est important, on arrête tout. Et qu'est-ce que Jésus veut qu'on retienne? Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un pécheur qui se perd et qui se repent, pour nous, vu de la terre ici, c'est pas grand chose. C'est pas un événement en soi. Mais pour le ciel, un pécheur qui se perd, c'est un drame. C'est un drame. Et quand il est retrouvé, c'est une immense joie qui est un petit peu le miroir du drame que cela représentait, le fait qu'il se soit perdu. Donc, la vision de Dieu par rapport à la personne perdue est différente de la vision que pouvaient avoir les hommes en général, que peuvent avoir les hommes en général, et les pharisiens ici en particulier. Et Jésus enchaîne avec une autre parabole. Ensuite, c'est la pièce perdue et retrouvée. Après la brebis perdue et retrouvée, voici la pièce perdue et retrouvée. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. » De même, je vous le dis, il y a de la joie dans les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et là, pareil, s'il y avait un dessin qui devait être fait de ces scènes-là, ben on ferait le premier dessin, on verrait la dame qui cherche partout son drachme. C'est une pièce grecque qui avait la valeur à peu près d'une journée de travail, qui a aussi la valeur à peu près, grosso modo, d'ordre de grandeur, d'une brebis. On voit quand même tout à fait que la tension monte, puisqu'il y en avait 1 sur 100 qui était perdu, et là, ça fait 1 sur 10. Hein. Première scène, donc, soigneusement, la dame, on dessinerait qu'elle cherche sa pièce perdue dans la maison. Et puis, on verrait qu'elle l'a retrouvée à un moment donné, et puis après, on verrait notre dessin où elle appelle toutes ses voisines parce qu'elle a trouvé sa pièce perdue. Alors, tout ça pour une seule pièce, bon... Une journée de travail, combien ça représente peut-être de nos jours, peut-être 100 euros, peut-être 150 euros, peut-être 50 euros. En tout cas, c'est pas rien hein, à la fin du mois. Les recherches archéologiques laissent supposer que les dames, pour pouvoir se marier, elles avaient besoin d'une collection de 10 pièces, d'avoir économisé, mis de côté une collection de 10 pièces. Et pour constituer, se constituer avec ça un diadème, un bijou, qu'elle, et quand elles avaient ça de près, quand elles étaient arrivées avec ça, elles pouvaient se marier. Les jeunes pouvaient se marier très jeunes à l'époque, mais voilà, il y avait cette sorte de dot ou cette sorte de. Elles montraient comme ça qu'elles étaient capables de gérer l'argent, capables de faire des économies, je suppose, et ça avait en tout cas une valeur plus importante que le simple prix. De la pièce, de ce que pouvait représenter la pièce. La raison de la porte de la pièce est, de la perte de la pièce est secondaire. Tout ce qui est important dans notre parabole, c'est le soin avec lequel elle est recherchée, cette pièce. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il en manque une pièce. Elle est exactement comme les autres. Mais le fait qu'il manque une pièce, toute la collection des pièces perd sa valeur. Quand il y en avait 10, ça constituait le collier, ça constituait la collection était complète. Mais s'il en manque un, ben voilà, il en manque un. Le verset 10, en tout cas, nous encourage à voir les choses comme Jésus les voit. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Un seul pécheur qui se repent vu de la terre, c'est pas grand chose. Vu du ciel, c'est quelque chose qui est extraordinaire, incroyable et une source de joie. La joie de retrouver est à la mesure de la joie de la perte qu'il y avait. Alors, on a des idées chez nous qu'il faut combattre absolument, comme un de perdu, 10 de retrouvé. Ça, c'est sur la terre, on dit ça, oh, un de perdu, 10 de retrouvé. Non, quand il y a quelqu'un qui est perdu dans l'église de Jésus, sur la terre, quand il y a quelqu'un qui se perd, c'est un drame. C'est un drame. Où on dit, il est perdu, tant pis pour lui. Non. Ça peut jamais, jamais être ça aux yeux de Dieu. Et il faut vraiment qu'on ait nos idées qui se conforment ici à l'enseignement et à la vision, et à la vision de Jésus. Et puis, il ajoute maintenant une autre parabole, la parabole très connue du fils perdu. Toutes ces paraboles sont spécifiques là, à l'évangile de Luc. Et verset 11, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien, sa fortune. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière ce tout ramassé? Peut-être que c'était des biens matériels qu'il y avait, des animaux, etc. Et donc il a tout vendu, il a tout ramassé, il a tout converti en monnaie. Et puis, il est parti avec ça. Ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux, les cochons. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges, de ce qu'on donnait à manger aux cochons, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. C'est ce qu'on appelle une repentance. Un demi-tour, un changement radical. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons. Réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le fils est perdu comme le mouton, comme la pièce de monnaie. Le fils est perdu. Mais là, il ne s'agit pas du tout le même ordre de valeur. Là, il s'agit de lui-même. Et il s'agit du propre fils, du père, son enfant. Son enfant est perdu. Et le fils perdu, bien sûr, on comprend, il a un prix absolu. Il a un prix absolu. Il faut se mettre à la place de cette personne. Quand on a des enfants, il faut se mettre à sa place. Le drame est absolu. Le texte nous dit aucune raison sur les raisons pour lesquelles il a pu partir. On n'a pas d'informations. Ce n'est pas donc quelque chose qui est important. Le père est séparé de son fils, mais vous avez remarqué que, contrairement aux autres paraboles, là, il ne part pas à sa recherche. Il ne part pas à sa recherche. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attend. Pourquoi il attend ? Je me suis posé cette question. Ben peut-être parce qu'il avait laissé son fils partir. Quand son fils cadet, qu'il devait connaître, lui a dit « Donne-moi tout ce qui est à moi. » Et quand il l'a vu tout ramasser, tout rassembler, il savait, il se doutait que c'était pour partir. Il n'était pas fou. Il l'a laissé partir. Il l'a laissé partir. Et c'est pas étonnant, donc, l'ayant laissé partir, il n'aille pas, se mette pas à la recherche, à sa recherche pour aller le ramener. Il l'a laissé partir et il attendait maintenant qu'il revienne. Il respectait la décision de son fils qui avait décidé, je pars de la maison. Il respectait parfaitement cette décision-là. Alors, on sent la tension, on peut sentir la tension chez cet homme. Il aime éperdument son fils, d'un côté, et de l'autre côté, il le laisse aller à sa perte. Mais comment peut-il faire ça ? Pourquoi ? Ça renvoie à la question, pourquoi Dieu permet le péché ? C'est une question métaphysique, certainement de première importance. On n'a que le pourquoi, et la parabole nous laisse chercher la réponse. Il y a un autre pourquoi, cependant, que l'histoire de Jésus qui suit va nous poser. Pourquoi Dieu s'est volontairement séparé de son fils. Pourquoi il a volontairement, son fils qui lui donnait toute sa joie, tout son bonheur, il lui a dit « pars » et va mourir sur la croix. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est aussi une question métaphysique de première importance. Pourquoi Dieu s'est volontairement séparé de son fils bien-aimé? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils à Jésus, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la suite de l'histoire. Le fils est perdu, et puis le fils ensuite est retrouvé. Comment ça se passe? Il a épuisé les joies que l'on pouvait trouver dans ce pays éloigné. Il a épuisé les joies du pays éloigné. Il a goûté à la cruauté de ce pays éloigné. Dans ce pays éloigné, tu as de l'argent, tu existes. Tu n'as pas d'argent, tu es une merde. C'était ça la réalité de ce pays éloigné qu'il convoitait tant. Et après s'être rassasié de solitude, après s'être rassasié de misère, il se souvient qu'il a une maison. Il a de la chance, ce fils-là qui est parti, parce qu'il a une maison. Il y a tellement de personnes qui n'ont plus de maison, ou qui n'ont pas de maison pour revenir. Et il reste dans la misère longtemps, longtemps, longtemps. Ils n'ont pas de maison comme son fils, comme ce fils-là. Mais Dieu a une grande maison pour accueillir tous les malheureux. Alors, on connaît bien la suite de l'histoire. Il revient et puis là, il est accueilli à bras ouverts par son père. Et là, c'est la joie. Le fils est scandaleusement pardonné. On va voir à la suite avec le fils aîné. C'est la joie. Et le fils ne sera pas serviteur, il sera fils. Et il va retrouver tous les attributs qu'il avait perdus en partant. C'est la joie. Le fils est retrouvé, c'est la joie. Le fils est retrouvé, c'est la joie partagée. On fait une grosse fête là. Mais il y a un mais, parce qu'il y a une suite à l'histoire. Et la suite de l'histoire s'adresse à ceux qui murmuraient en voyant Jésus fréquenter les pécheurs. C'est la parabole du fils scandalisé, verset 25, la suite de notre texte. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison, et il entendit la musique, les danses, et il appela les serviteurs, lui demandait ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Et le fils se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit, le pria de rentrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Et dans ce que je te sers, c'est que je te sers comme un esclave. » Ça n'apparaît pas en français, mais ça apparaît dans le texte grec. « Que je te sers comme sert un esclave. » Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton mien avec des prostituées, et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce qu'il est revenu à la vie. Ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Comme dans les autres paraboles, là c'est le grand frère est perdu à ce moment-là. Pourquoi je dis qu'il est perdu? Il est lucide sur la situation. Tout ce qu'il décrit est entièrement vrai. Mais il n'accepte pas que son père ait pardonné à son petit frère. Il n'accepte pas le pardon accordé au petit frère. Pourquoi ? Peut-être que lui non plus n'est pas pleinement satisfait de sa situation. Il l'a subi en quelque sorte. Il est soumis à son père, mais il lui obéit, selon ses propres mots, comme un esclave. Il vit avec son père, mais est-ce qu'il le connaît ? Pas vraiment. Comment celui qui a donné la moitié de sa fortune à son fils cadet ne lui donnerait-il pas un chevreau, un mouton, pour, ou un denier, pour qu'il fasse la fête avec ses amis? Certainement, le père lui aurait accordé. La fortune du père est à la disposition de ses enfants. Tout est à eux. Le fils cadet l'avait compris. Mais le fils aîné, lui, ne l'avait pas compris, que tout ce que le père avait était à lui. C'est quelque chose qui est difficile à intégrer. Il vit avec son père sans le connaître et il n'aime pas vraiment son petit frère. Alors il est là, sans amour, sans joie, sans doute lui aussi attiré par l'illusion du pays lointain. Le fils aîné est à sa façon aussi, lui aussi, perdu. Et là, il est dans une situation dramatique. Est-ce que le grand frère va gâcher la fête? Est-ce qu'après avoir le père, après avoir perdu son fils cadet, va perdre maintenant son fils aîné? Il va retrouver le fils cadet, mais le retour du fils cadet, est-ce que ça va signifier le départ du fils aîné? Et la parabole ne le dit pas. Qui a le soin d'écrire la parabole? C'est les pharisiens qui murmuraient, c'est eux qui doivent écrire la fin. Est-ce qu'ils vont rentrer dans la maison et se réjouir et pardonner à leurs frères comme leur père a pardonné, et être heureux et l'embrasser et le serrer dans ses bras? Ou est-ce qu'il va rester dehors et être perdu? Jésus ne donne pas la réponse est dans leur main. Dans la réponse, c'est peut-être dans notre main, si nous on est dans une situation, pour une raison ou pour une autre, similaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai noté 4 applications principales, et j'en aurai une optionnelle, mais il y en a 4 principales. La première, vous l'avez compris, je l'ai répété plusieurs fois à la suite de Jésus, les personnes qui sont perdues sont importantes. Ce qui manque, manque. Ce qui manque ne peut être compté, dit l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 15. Hier, donc, j'étais à la RMC, et il y avait Marc, qui était là, le responsable de l'église de Mende, et on discutait de petites églises. Et il dit, ouais, c'est quand il manque quelqu'un à l'église, c'est comme il y a un mur, et puis il y a un trou dans le mur. Et puis tout le monde, il voit le trou. Tout le monde voit le trou quand il y a quelque chose qui manque quelque part. On ne voit que ça. On ne voit que ça. C'est tellement important dans nos petites églises. Ça se voit particulièrement, mais dans le ciel, c'est comme ça. Jésus était au milieu des pécheurs pour les ramener à Dieu. Est-ce que c'était un plaisir que d'être avec les pécheurs? Non. Certainement, il était mieux avec ses disciples, mais le but d'être avec les pécheurs, c'est de les ramener. Alors, où est-ce que nous voulons être, nous? Est-ce que nous voulons être avec Jésus? Alors, si nous voulons être avec Jésus, ne soyons pas surpris que nous nous retrouvions au milieu de gens pécheurs. C'est pas étonnant, parce que Jésus cherchait les gens pécheurs, et donc si on est avec Jésus, on sera entouré au milieu des gens pécheurs. Jésus sait ce qu'il cherche. Il connaît les gens qu'il cherche. Mais nous, on ne le sait pas. Nous, on ne le connaît pas. Lui, il est le berger. Il sait où est sa brebis. Il sait qui est sa brebis. Il sait qui est cette personne qui va se convertir. Nous, on ne le sait pas. Alors, il faut être ouvert. Il faut chercher avec lui, puisque nous sommes avec lui. Je crois que l'important quand même aussi, c'est de ne pas lui compliquer le travail. Un mouton qui est perdu, il est apeuré. Il est perdu. Il ne sait pas où il est. Et il a besoin d'entendre la voix du berger. Il n'a pas besoin d'entendre notre voix. Il a besoin d'entendre la voix du berger. C'est celle-là qui va le rassurer. C'est celle-là qui va l'attirer. C'est vers cette voie-là qui va se diriger, pas vers la nôtre. Jésus sait ce qu'il cherche, on ne le sait pas. Alors, cherchons partout, comme cette dame qui balayait toute sa maison consciencieusement pour chercher sa pièce de monnaie. Il s'agit d'être méthodique, il ne s'agit pas de faire des trucs, et puis on commence d'un côté, on fait un petit peu à droite, à gauche, on est désordonné, et puis on ne trouve pas, hein, vous savez... comment on fait pour chercher, des fois on passe à côté sans le voir. Il y a une belle anecdote pour illustrer ça, c'est l'église de, il y avait le représentant de l'église de Ussel, et les frères avaient à cœur ce projet. Dans la Creuse est un département, un des moins peuplés de France, si ce n'est le moins peuplé. Il y a très peu d'églises, et il y en avait qu'une à l'époque, et donc distribuer dans la Creuse un évangile dans toutes les maisons. Et ils ont fait toutes les maisons méthodiquement, secteur par secteur, avec une grande carte détaillée, et toutes les maisons, il les passait une après une, il les cochait. Il fallait, et des fois, il fallait qu'ils marchent, pour aller chercher une maison perdue, ils y allaient pour distribuer, pour donner l'évangile, et ils ont fait ça, et ils ont passé toutes les maisons de la Creuse sans en oublier aucune. Bon, il y a une deuxième église maintenant, il y a une église à Aubusson qui a été implantée, là où est-il. Le Seigneur a honoré ce travail. Cherchons partout, hein, cherchons partout, si on veut travailler et être avec Jésus. Celui qui est perdu est une personne qui est importante. Deuxième application, il y a plusieurs façons d'être loin de Dieu. Ça nous réfère à notre frère aîné, et aux pharisiens. Le fils cadet, lui, c'était clair, il était avec les collecteurs d'impôts, il était vraiment loin, il était pécheur. Mais pour le fils aîné, c'était plus subtil. Les pharisiens ne connaissaient pas correctement leur Dieu. Et on peut avoir comme eux une vie religieuse, pieuse, quelque chose d'apparence bien, une vie droite, une vie dans l'obéissance, mais une vie sans amour et sans joie. C'était le cas de l'église d'Éphèse dans le Nouveau Testament, quand ils reçoivent cette lettre, chapitre 2. Alors, bien sûr, c'est une situation beaucoup moins grave que de vivre dans un pays éloigné. Mais si on persiste, suivant la réponse qu'on va donner à Jésus qui invite dans la salle de fête, ça peut devenir une situation vraiment dramatique. Pas pour les gens qui nous entourent. Une situation dramatique pour Dieu qui perd encore un de ses enfants. Deuxième enseignement, donc, deuxième application, il y a plusieurs façons d'être loin de Dieu. Et Dieu, bien sûr, la troisième indication, qui est la principale de cette parabole, c'est que Dieu fait bon accueil aux pécheurs quand ils reviennent. Alors, où suis-je? Est-ce que je suis loin ou est-ce que je suis proche de Dieu? Suis-je parti? Et pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Quel est l'état de ma vie? Le fils prodigue a tout gagné en revenant vers son père. Et il a pris la bonne décision. Alors pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui empêche finalement ce retour à la maison? Ce demi-tour et cette demande de pardon à Dieu. Dieu fait bon accueil aux pécheurs quand ils reviennent. C'est la troisième application. Revenir vers lui. Et la quatrième, c'est la joie d'être ensemble. Le ciel n'est pas un endroit ennuyeux, c'est un endroit joyeux. Et les justes donnent de la joie dans le ciel. Mais il y a quelque chose qui donne encore plus de joie, c'est quand des pécheurs passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, lorsqu'ils se convertissent, lorsqu'ils viennent à Dieu en demandant pardon. Ça donne une joie immense dans le ciel. La joie du ciel est collective. C'est la joie d'être ensemble également. Et le Père tenait en réserve le veau gras pour ce jour de retrouvailles, pour fêter ce jour-là où son fils allait rentrer. Et sa fortune servait à ça. C'est pour ça qu'il l'a gardé en réserve. Dieu a créé la joie pour être partagée. J'ai une application pour notre Église par rapport à nos agapes. Bon. C'est pas qu'elles sont tristes, mais c'est qu'on n'est pas tous là. C'est ça surtout le problème. On n'est pas tous là. Alors, il manque toujours quelqu'un. Et en même temps, je me dis, mais si nos agapes, c'était la joie du ciel qui était là, mais personne ne voudrait manquer nos agapes. On serait toujours, voudrait toujours avoir cette vue ensemble. Mais quelle est la prochaine agape pour qu'on soit joyeux ensemble? Donc, là, on a quelque chose à travailler dans notre Église. La joie d'être ensemble. Une application annexe, c'est pour les pères, là. Être un bon père. Le héros de la parabole, c'est un papa, c'est un père. C'est lui, le héros, il est l'image de Dieu. Mais dans la vraie vie, les pères, souvent, ils sont pas comme ça. Ils sont pas comme celui-là. Ils sont imparfaits pour leurs enfants. Ils sont imparfaits. Et ils laissent les traces de leurs imperfections chez leurs enfants. Et bien souvent, les enfants vont reproduire ça chez leurs enfants, etc., etc. Et le principal problème des pères, c'est un problème de cœur. C'est pas qu'ils aiment pas leurs enfants, c'est que il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque, même si certainement les papas seraient prêts à donner leur vie pour leurs enfants, pour les sauver, mais il y a quelque chose qui manque. Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes, et l'ange qui a annoncé sa venue, il a eu une naissance miraculeuse, et l'ange qui a annoncé sa venue à son père lui a dit: il marchera devant Dieu avec la puissance d'Élie, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, celui qui défiait les Baals, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste avait ce ministère de ramener le cœur des pères vers les enfants. Et le problème est premièrement le problème du cœur des pères. Alors voilà, la dernière application, c'est pour les pères, d'aimer vos enfants comme Dieu nous aime, comme Dieu nous aime. Et on a cet exemple de père qui me fascine, comme Dieu est fascinant. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement de Jésus. Merci parce qu'il est proche des pécheurs. Combien j'admire le Seigneur. Comment il savait entrer en contact avec eux. Comment il savait les attirer à toi, qu'il les cherchait pour toi. Merci de ce que, en étant avec lui, on est associé à ce travail. Merci parce que c'est lui qui est le bon berger, qui connaît ses brebis. Et ses brebis écoutent sa voix. Elles rentrent, elles sortent. Elles ne suivent pas la voix d'un inconnu. Merci Seigneur parce que tous tes enfants, tu les chercheras et tu les ramèneras dans ta belle maison de joie. Et merci parce que tu veux également changer nos cœurs pour pardonner, nous aussi, avec toi, pour être mieux te connaître, mieux connaître quels sont tes centres d'intérêt, ce qui est important pour toi. Et merci parce que nous devons aller bien au-delà du légalisme, de fais ceci, fais pas cela. Et c'est dans une bien autre relation que tu nous appelles, une relation filiale, pas une relation de maître à esclave, une relation de père et de fils, semblable à la relation que toi tu as avec ton fils Jésus-Christ. Alors aide-nous à faire des progrès dans le domaine du pardon, de l'amour et dans le domaine de la joie également. Ça découle de tout le reste. Si notre cœur est changé, il deviendra joyeux. Merci de nous aider également dans nos moments ensemble, que nous comprenions l'importance de ce être ensemble pour toi, pour notre plus grand bonheur à nous aussi. Dans le nom de Jésus. Amen.